Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le Grand Prix automobile de Formule 1 aura lieu ce dimanche à Bahreïn, départ à 18h local. Bahreïn est l'une des monarchies du Golfe Persique. Pétrodollars, islamisme, délire urbain, travailleurs étrangers exploités, absence de droits des femmes, ces monarchies cumulent les reproches qu'elles tentent d'atténuer avec des rendez-vous internationaux comme la Formule 1 automobile ou encore la Coupe du monde de football qui aura lieu au Qatar en 2022. Pourtant, ces sociétés conservatrices sont traversées par des débats de fond qui interrogent sur les questions d'identité, de citoyenneté, de droits civils et politiques. L'après-pétrole ou gaz, le développement urbain et la recomposition des alliances régionales sont également au cœur des interrogations, surtout depuis les printemps arabes de 2011. De quoi inciter la revue Moyen-Orient à consacrer un large dossier à ces monarchies dans son dernier numéro qui sort ces jours-ci en kiosque. L'absence de droit ou le droit bafoué des femmes, il en est encore question en Libye. La chute de Kadhafi donnait beaucoup d'espoir dans ce domaine. Il n'en est rien, nous dira Nermat El-Matari, qui a recueilli des témoignages dans l'émission qu'elle produit sur Monte Carlo Doualiya. À suivre également la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Rien ne va plus entre certains membres du Conseil de coopération du Golfe. Fondé en 1981 autour de l'Arabie Saoudite, ce conseil fédère également le Koweït, Oman, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Qatar. C'est ce dernier qui suscite la grogne de ses partenaires, dont trois d'entre eux ont rappelé leur ambassadeur à Doha le mois dernier. Ces monarchies du Golfe sont néanmoins incontournables dans un monde arabe en mal de puissance et même au-delà, puisque leurs fonds souverains investissent aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou en Afrique. Guillaume Fourmont, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef de la revue trimestrielle Moyen-Orient, avec laquelle RFI est en partenariat. Dans le numéro 22 qui sort en kiosque en ce début avril, vous consacrez votre dossier à ces monarchies du Golfe et vous écrivez que le printemps arabe de 2011 en Tunisie, en Égypte, en Libye, à Bahreïn ou au Yémen a contribué à replacer les pays du Golfe au cœur du débat géopolitique au Moyen-Orient. Pourquoi ?
Si les révolutions en Tunisie, en Égypte et en Libye ont fait très peur aux monarchies du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, cela a duré peu de temps. Pourquoi ? Parce que ça a été l'occasion pour Riyad et Doha de remonter sur la scène politique régionale et internationale et de s'imposer à nouveau comme des puissances qui comptent au Moyen-Orient.
Alors, est-ce que le fait que le Qatar soit très impliqué dans certaines de ces révolutions, ou en tout cas post-révolution, a joué un rôle ?
Oui. La particularité du Qatar sous l'émir Hamad qui a passé la main à son fils en juin 2013, c'était une diplomatie très médiatisée, notamment basée sur la résolution de conflits et un certain porte-drapeau d'une démocratie, ou du moins d'une idée de la démocratie avec des guillemets, au Moyen-Orient. Et le Qatar a tout de suite appuyé les mouvements populaires dans les pays arabes. On verra plus tard que les populations n'ont pas forcément appuyé, elles, le Qatar. C'est cet activisme diplomatique qui suscitait de l'énervement dans la péninsule arabique, notamment en Arabie Saoudite, pour qui il fallait absolument contrôler ce genre d'événement, notamment sur son propre territoire.
Mais est-ce que la position prise depuis par le Qatar, après ces révolutions, ces printemps arabes, notamment sur la Syrie, a provoqué cet énervement au sein du CCG ?
Premièrement, les énervements entre les membres du CCG sont anciens et remontent dès la fondation du Conseil de coopération du Golfe en 81. Mais le point délicat aujourd'hui, c'est le soutien de Doha aux frères musulmans. Une confrérie qui n'est pas appréciée, elle est même honnie par les régimes des Émirats ou de l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que les frères musulmans représentent une alternative politique islamique à leur propre pouvoir. Et en mars, il s'agissait d'adopter une résolution commune sur la situation au Moyen-Orient et Doha a refusé de renoncer à son soutien aux frères musulmans.
Alors, dans le dossier que vous développez dans Moyen-Orient, vous faites plusieurs focus, si je puis dire, sur les sociétés des monarchies du Golfe, des sociétés qu'Orient Hebdo s'attache à mieux connaître au fil des émissions. Elles sont certes très conservatrices, mais plus complexes n'y paraît, et elles sont surtout traversées par de vrais débats, je pense à l'identité ou à la citoyenneté.
Oui, c'est très important à comprendre. Au-delà de l'image de la mondialisation, de l'urbanisation, ce sont des sociétés méconnues et beaucoup plus diverses qu'on ne croit. Par exemple, vous avez le divorce. Dans les monarchies du Golfe, le taux de divorce s'élève à environ 30%. Pourquoi ? Parce que ça reflète un changement dans les modèles de famille et ça interroge sur la place de la femme. Ce sont des sociétés extrêmement urbanisées, autant qu'en Europe, extrêmement éduquées, un taux d'alphabétisation très élevé, avec des femmes qui aspirent à leurs droits économiques, c'est-à-dire l'éducation, l'enseignement supérieur, l'accès à l'emploi, une indépendance financière. C'est extrêmement important et cela a des conséquences sur la démographie, le modèle familial. Et donc, on voit dans la presse des débats très intéressants sur la société, et c'est pas seulement le divorce, c'est aussi des questions extrêmement taboues, par exemple l'homosexualité, la drogue, l'alcool, des choses qui sont considérées comme interdites dans ces sociétés.
Et la citoyenneté, puisque dans certains pays, dans certaines monarchies, notamment dans les Émirats, la question de la citoyenneté se pose évidemment, puisque ce sont des pays qui sont jeunes.
Alors oui. Ce sont des pays très jeunes. Par exemple, en Arabie, on considère que 45% de la population a moins de 25 ans. Alors, si dans un pays comme le Qatar, la notion de citoyenneté implique un peu moins de réflexion puisqu'ils sont très très peu d'habitants, dans un pays comme l'Arabie, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que la rente pétrolière n'est plus suffisante. Mais si le régime monarchique n'est pas remis en question en soi, on est quand même face à un pays dirigé par des princes extrêmement vieux. Je rappelle que le roi est né en 1921. Donc cette gérontocratie ne représente parfois plus les intérêts de son peuple. Ce sera l'un des défis du prochain roi. Et donc cette population très jeune, à quoi elle aspire ? Elle s'interroge sur sa propre identité. Qu'est-ce qu'être saoudien aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'être émiratien aujourd'hui ? Sommes-nous des reflets de la mondialisation, de l'islam, ou quelles sont les bases de notre nationalité, de notre citoyenneté ? C'est un débat très intéressant et c'est l'un des principaux défis des hommes aujourd'hui au pouvoir.
Alors débat sur la citoyenneté, débat aussi sur la notion de l'emploi. Beaucoup de ces pays s'interrogent sur quel emploi pour notamment leur population locale.
L'accès à l'emploi est lié à la citoyenneté, car la difficulté, c'est de connaître les vrais chiffres du chômage. Aucun de ces pays, à part le Bahreïn, n'a un institut des statistiques comme on les connaît dans les pays de l'Union européenne. Donc il est très difficile d'avoir des chiffres fiables. On considère que le taux de chômage, par exemple, en Arabie, est de 10,5%. Il est beaucoup plus élevé, notamment chez les moins de 25 ans, et chez les femmes, on l'ignore, puisqu'elles ne sont pas prises en compte dans les statistiques. La question de l'emploi est fondamentale. Comment la résoudre ? Nous avons vu en hiver 2013 l'Arabie Saoudite prendre des mesures radicales en invitant toute population immigrée en situation irrégulière à aller voir les autorités. Cela aboutit à, si j'ai bonne mémoire, 3 millions d'expulsions, notamment des Éthiopiens et des Asiatiques. En revanche, ils n'ont pas encore trouvé la solution pour résoudre le problème. Par exemple, juste après les soulèvements en Tunisie et en Égypte, quelle a été la réaction immédiate des monarchies du Golfe ? Distribuer de l'argent. Un régime comme l'Arabie a promis des aides sociales, des appartements, la création d'une prime de chômage. Aujourd'hui, elle n'est pas encore en vigueur, on verra. Mais la question de l'emploi est centrale. Pour rappel, en 2011, les deux seuls pays où il y a eu des manifestations importantes, ce sont les pays où le PIB par habitant est le plus faible et où les taux de chômage sont assez importants. Oman et Bahreïn.
Les monarchies du Golfe sont à la une du dernier numéro de la revue trimestrielle Moyen-Orient qui sort en ce début avril et dont vous dirigez la rédaction. Merci Guillaume Fourmont.
Merci.
Que s'est-il passé pour les femmes en Libye depuis la chute de Kadhafi et sa mort le 20 octobre 2011 ? C'est la question que vous vous êtes posée dans votre émission sur Monte Carlo d'Oualia. Nermat El Matari, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que la situation des femmes est meilleure aujourd'hui en Libye ?
n'est pas beaucoup mieux qu'avant. Il y avait plus de droits pour les femmes. Les femmes, elles avaient le droit d'aller à l'école. C'était obligatoire pour toutes les femmes. Les femmes, elles étaient militaires. Elles étaient ministres. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait 3 ministres, mais elles étaient ministres. Mais aujourd'hui, les femmes, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école parce qu'on est revenu en arrière. Elles ne peuvent pas travailler comme elles veulent. Elles ne peuvent pas sortir tout seules. Mais elles ont le droit de parler maintenant plus que pendant Kadhafi. Pourtant, les femmes, elles viennent, elles participent dans cette révolution. Mais maintenant, il a presque plus de droits.
Alors, il y a une loi qui est passée très très récemment en Libye et qui, justement, revient sur une partie qui est assez sombre de la révolution libyenne. C'est lorsque les femmes ont été utilisées comme...
Le viol
a été utilisé contre les femmes. Racontez-nous ce qui s'est passé sous la révolution pour les femmes et aujourd'hui, cette loi.
Centaines de milliers de femmes étaient violées. C'était utilisé le viol comme arme de guerre de Kadhafi et de ses troupes. Et ces femmes, elles ne pouvaient même pas parler parce que la société le rejette, la famille elle le rejette. Et j'ai entendu plusieurs femmes parler de leur situation, de leurs histoires. C'est horrible. On ne peut pas imaginer qu'est-ce qui s'est passé.
Et donc, il y a une nouvelle loi qui va les protéger, c'est ça ?
Maintenant, mercredi dernier, le gouvernement a adopté un décret qui protège les victimes de guerre. Ça veut dire qu'elle a le droit maintenant de bénéficier de plusieurs aides médicales, financières, aussi d'un logement et aide à l'éducation. Et peut-être maintenant, leur famille, elle va le récupérer et elle va être reconnue.
Parce qu'elles étaient rejetées, c'est cela ?
Elles étaient rejetées de partout, de tout le monde.
On avait pourtant l'impression, vu de l'Occident, vu de Paris, Londres ou Berlin, que cette révolution était une révolution moderne. Apparemment, ce n'était pas le cas.
Non, c'est le contraire. Imaginons, Eric, maintenant, l'homme, elle peut se marier avec deuxième, troisième et quatrième femme. Pendant Kadhafi, non, elle ne peut pas. Maintenant qu'elle peut se marier, il est libre de se marier avec 4 femmes.
Donc une société beaucoup plus conservatrice et beaucoup plus archaïque qu'autrefois, c'est cela ?
Oui.
Merci Nermata
Malheureusement pour les femmes.
Malheureusement pour les femmes. Merci Nermata El-Matari. Je rappelle que vous avez une émission consacrée à ces questions de société sur Monte Carlo Douaniya. Merci.
Merci.
La musique expérimentale n'a pas de frontières. La preuve par le groupe Télépoétique, formé de 3 musiciens, Amir aux percussions, Mohamed à la guitare électrique et Ahmed au synthé. Ce trio égyptien basé à Alexandrie est typique de l'électronique post-rock, comme dans ce morceau Altania. Télépoétique enchaîne les prestations live depuis 2006. Il joue ce samedi soir au 14e Festival de musique électronique expérimentale de Beyrouth, au Liban, aux côtés des Libanais, Moumna et Radio Koum.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Eric.
Alexandre, le journal Al-Sharq Al-Awsat révèle que des éléments des rebelles de l'État islamique d'Irak et du Levant seraient liés au régime Assad en Syrie.
Oui, selon le journal, Daesh, le nom arabe de l'État islamique en Irak et au Levant, serait infiltré par des agents du régime Assad. Alors il publie, pour appuyer ses dires, des copies de documents et notamment des cartes d'identité de personnes qu'il qualifie d'être des agents de Damas et qui auraient été retrouvés dans les rangs de Daesh. des agents qui auraient usé des forces rebelles pour favoriser tactiquement le régime à l'occasion de plusieurs batailles contre d'autres factions de la rébellion. Et puis, il y a aussi les actes extrémistes Daesh, comme les décapitations et les exécutions sommaires opérées par le mouvement extrémiste qui servent la propagande du régime pour illustrer, je cite, la sauvagerie de la rébellion, notamment à l'égard des minorités ethniques et religieuses.
Alors, la presse israélienne Michel Paul s'intéresse avant tout au dialogue israélo-palestinien et parle de crise ouverte.
Crise ou explosion, c'est la question que pose en titre Yediot Aharonot. Alors à l'heure actuelle, on en est au stade de la confrontation ouverte et aussi dans le journal, une citation d'un responsable israélien, c'est une véritable claque que nous avons reçue des Palestiniens. Dans la presse israélienne, après l'annonce officielle de l'annulation de la quatrième vague de libération de détenus palestiniens, on parle de pessimisme prudent. Quelle chance pour nous tous, sauf pour l'espion Pollard, que le président palestinien ait arrêté les frais maintenant, écrit une éditorialiste. Nous sommes tous des pions sur l'échiquier américain, écrit pour sa part un commentateur. Tandis que l'éditorialiste de Mariv proclame « Ne vous trompez pas, ce sont les Palestiniens qui sont responsables de cette situation ». Et puis, à retenir également, Eric, ce sondage publié dans Israel Hayom, le journal proche du Likoud, le parti du Premier ministre, 58% des Israéliens ne croient pas en un accord avec les Palestiniens, près de 30% pensent que c'est possible, mais à très long terme.
Et puis Michel, on évoque aussi des sanctions israéliennes à l'encontre des Palestiniens.
À en croire la presse israélienne, c'est un ministre israélien, Naftali Bennett, du parti ultranationaliste, le foyer juif, qui est à l'origine de cette initiative. Il tenterait d'attaquer directement Mahmoud Abbas, le président palestinien, devant la haute cour de justice de La Haye. Mais d'autres sanctions sont également prévues par des proches de Benjamin Netanyahou. Construction massive dans les colonies de peuplement et aussi confiscation de fonds qui devraient être versés en principe à l'autorité palestinienne.
Alexandre Bouchianti, le journal Alayat affirme en manchette que la montée de la violence divise le front de soutien à l'ex-président frère musulman Mohamed Morsi.
Oui, et le journal se réfère au triple attentat à la bombe contre les forces de police stationnées devant l'université du Caire mercredi, mais aussi aux attaques d'étudiants contre des bâtiments de plusieurs facultés au Caire et ailleurs. Alors des bâtiments incendiés ou saccagés. Alors selon le journal, cette escalade de la violence a poussé certains mouvements alliés aux frères musulmans à prendre leur distance à l'égard de la confrérie. Mais d'autres journaux soulignent les risques d'escalade qui pourraient être provoqués par la décision de l'université du Caire d'ouvrir le campus à un stationnement permanent de la police. Une présence qui pourrait être perçue comme une provocation par les étudiants qui ne sont pas forcément des alliés des frères musulmans, mais qui n'apprécient pas non plus la police. Alors une police qui est accusée d'exactions par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme.
Et toujours à propos des frères musulmans, Alexandre, plusieurs journaux arabes commentent l'ouverture par Londres d'une enquête concernant la confrérie.
Oui, une enquête ordonnée par le Premier ministre David Cameron après les accusations de recours à la violence formulées contre les frères musulmans. De la poudre aux yeux, selon de nombreux éditorialistes qui estiment qu'il s'agit d'une opération de relations publiques pour répondre aux critiques de l'Arabie Saoudite et des Émirats, deux investisseurs importants au Royaume-Uni. Mais les journalistes soulignent que les liens entre Londres et la confrérie remontent à plus de 80 ans quand ils n'accusent pas les services secrets britanniques d'avoir participé à la création du mouvement en 1928. Ils citent notamment une donation généreuse qui aurait été faite à Hassan el-Banna, le fondateur de la confrérie, par la société du canal de Suez, dont le principal actionnaire était l'État anglais.
Alors, un article exclusif dans Haaretz, Michel Paul, sur le sort réservé aux réfugiés africains en Israël qui sont expulsés vers des pays tiers.
Oui, c'est un article de Haaretz qui en fait d'ailleurs le titre principal de sa une. Les demandeurs d'asile d'origine soudanaise et érythréenne sont envoyés en Ouganda et au Rwanda, sans respect de leur statut ou de leurs droits, en échange de quoi Israël entretient des relations particulières avec ces pays, notamment des ventes d'armes.
Et puis un sujet dont on ne parle pas beaucoup, Michel, ces extrémistes israéliens qui s'en prennent aux villageois palestiniens.
En hébreu, Tag Mechir, l'ardoise que font payer des colons extrémistes aux villageois palestiniens, des graffitis racistes, des pneus crevés et aussi des cocktails Molotov sur des mosquées. La haine ne fait qu'empirer, écrit l'auteur de cet article.
Oui, un sujet dont nous avons parlé dans une précédente émission avec les observateurs de France 24. Michel Paul, on termine avec votre photo du jour.
Eh bien, c'est la photo de la semaine, celle de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, qui a été reconnu coupable de corruption.
Merci messieurs, merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur le site www.rfi.fr à la rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.